Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site. Les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animé par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent et de ceux qui le partagent depuis 2000.
On est des sculpteurs de végétal, on a bien conscience que c'est un élevage qu'on fait. Tu vois, c'est comme les animaux, c'est un peu la même histoire. C'est un élevage, c'est pas des vignes à l'état sauvage. Ça n'a rien à voir. Donc on est là pour la sculpter, pour la travailler.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Voilà un domaine dont la réputation ne fait que croître et vous allez très vite comprendre pourquoi. Plus qu'une visite, c'est à une véritable balade dans les vignes que Nicolas Grosbois nous a conviés, micro ouvert, pour nous présenter son vignoble et ses vins. Sans phare et avec la sympathie qui le caractérise, Nicolas revient sur les grands moments de l'histoire du domaine et développe sa vision de l'avenir pour la famille Grosbois et Chinon. Et vous verrez qu'il ne manque ni d'idées, ni de lucidité.
Bon Nicolas, est-ce que tu peux nous dire où on est exactement là, s'il te plaît?
Ben bonjour, on est à Panzoux. On est sur le domaine Grosbois, dans le Val-de-Vienne. Donc tu vois, devant toi, t'as la partie de la Vienne, Val-de-Vienne, Chinon là-bas à l'ouest, et puis Sainte-Maure à l'est de l'autre côté. On est sur la rive droite de la vallée de la Vienne, en amont de Chinon, sur une descente de Miarge, un sable coquillé du Rhônien supérieur. C'est domaine Grosbois, c'est un domaine de 50 hectares en tout, 25 hectares de vignes, le reste dédié au maraîchage et à l'élevage, avec des pâturages tournants et des pâtures permanentes pour faire du foin. Et donc devant toi, on est sur le lieu dit du pressoir, qui est un site du 15-16e qui n'a jamais vraiment été terminé. Mais c'est un site fortifié. Et la chance qu'on a, c'est que ça n'a jamais été remembré depuis le 15-16e. Les murs ont bougé. Tu vois, dans la vigne, il reste des piliers, il reste des morceaux de murs. Mais la géographie des parcelles est restée la même depuis le 15-16e. Donc on a devant toi, tout autour du duché, un patchwork de 12 parcelles différentes qui composent la cuvée Gabar qu'on goûtera tout à l'heure en cuve et en bouteille. Et puis là devant toi, en allant vers Chinon, il y a une petite partie qui s'appelle la clôture, qui est un ancien clos que nos grands-mères avaient voulu garder absolument. C'est une vigne qui a été plantée en 1910-1915. On n'a pas la date exacte, mais c'est une vieille sélection massale qui nous fait la jolie cuvée clôture. Et au-dessus, il y a le Clos du Noyer, sur de la Miarge, Cabernet Franc aussi, et avec la Truffière et la forêt qui, elle, part vers le nord pour rejoindre la vallée de l'Indre, après, puis la vallée de la Loire.
Les 12 parcelles que tu décris là, il y a une unité pédologique ou il y a des différences de terroir entre les 12 parcelles?
On a une unité homogène sur l'ensemble. Dans sa généralité. Et après, on a des profondeurs de sol et qui sont vraiment variables. C'est-à-dire que la vigne qui est devant toi, je n'ai jamais pu trouver la roche-mère. donc qui est là juste devant nous à 10 mètres. J'ai réussi à descendre à 6-7 mètres de profondeur, mais j'ai jamais trouvé la roche-mère. Et la vigne qui est juste là à droite, donc la clôture, on est à 50 cm de sol. Donc sur toute cette descente de coteau, on a une roche-mère qui est identique, qu'on appelle la Miarge, c'est ce turonien supérieur. Donc sédiments marins plus ou moins compressés. Quand c'est très compressé, ça forme comme un grès avec des coquillages et du sable, ce qu'on trouve dans le bas des murs chez nous. Et si c'est pas très compressé, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, ça te donne ce grès très friable qui te restitue énormément de silice et qui constitue des sols plutôt intéressants. Mais pour revenir à ta question, on a donc devant nous des profondeurs de sol différentes, ce qui a amené des structures de sol sensiblement différents, et une alimentation, donc comme le sol est à profondeur différente, une alimentation de tes cèpes franchement différente. Tu peux imaginer que même si on a une roche mère identique entre nos deux parcelles qu'on vient de décrire, hein, donc une avec 6 mètres de profondeur de sol et l'autre avec 50 cm, 1 mètre de sol maximum, on n'a pas la même rétention en eau, on n'a pas la même capacité de nos cèpes et nos racines à descendre en profondeur ou pas, donc on n'a pas la même énergie. Et ce qui fait que sur cette descente de sol qui paraît plus ou moins homogène, on a malgré tout des différences vraiment notables de contraintes hydriques et de contraintes de structure, ce qui fait qu'on a des vignes qui sont plus ou moins vigoureuses, et ce qui par conséquence te donne des concentrations de raisins différents, et par effet de ricochet forcément des vins différents.
Ça, tu le mets dans une cuvée, tu l'as dit, la cuvée Gabar, qui est une cuvée d'assemblage. Pourquoi est-ce que tu sépares pas ces parcelles-là pour faire des vins différents ?
Alors, moi, j'ai repris le domaine à mes parents, Jacques et Jocelyne, en 2005-2006. Je suis revenu, 2008, je reprends les parts, mais je leur rachète complètement les parts. Et Sylvain, mon frère, nous rejoint en 2017. Donc finalement, tu vois, on a une histoire qui est assez récente. Ce que je veux dire, c'est que mes parents opéraient une viticulture qui était assez classique, c'est-à-dire que tu avais une cuvée de jeune vigne, une cuvée de vieille vigne, une grosse partie partait au négoce, une petite partie était vendue à l'époque en cubiténaire, tu sais, tu remplissais les cubis à la main, et il n'y avait pas forcément de volonté d'unité terroir. Donc moi, quand je suis revenu, j'ai essayé de creuser un peu cette unité terroir. Et en même temps, j'ai hérité de 30 ans de chimie, donc il n'y avait rien qui pousse. Aujourd'hui, tu vois de l'herbe dans les vignes, mais à l'époque, il n'y avait rien qui poussait. Donc j'ai commencé à isoler quelques parcelles, la clôture et le clos du noyer. Et puis j'ai aussi isolé automatiquement toutes les parcelles dont on parlait, le patchwork. Et dans des cuves séparées pour obtenir... l'âme de chaque parcelle, tu vois, d'extraire l'âme de chaque parcelle. Mais il m'a fallu 10 ou 15 ans, et maintenant avec Sylvain, il nous a fallu 10 ou 15 ans pour pouvoir avoir des vignes qui commencent à s'équilibrer. Donc quand tu pars comme ça avec un groupe de 15 parcelles, il y en a deux qui parlaient bien, tu vois, qui s'exprimaient vraiment dans leur originalité et dans la plénitude terroir, donc clôture et clos du noyer. Et puis toutes les autres... on parlait de celles qui avaient un sol un peu plus profond, bah, y avait un déséquilibre où on ne l'avait pas compris aussi. Tu vois, on parle souvent du sol, mais c'est aussi de l'interprétation souvent du vigneron ou de la vigneronne qui n'est pas forcément bonne par rapport à son sol et qui n'a pas compris qu'il lui fallait un peu plus de vigueur, un peu moins de vigueur, ou taillé un peu plus long ou un peu moins long. Donc on commence à avoir une résonance intéressante de nos parcelles maintenant au bout de 15 ans. Donc quand tu commences et que tu ne sais pas trop, tu les sépares au tout début, tu les goûtes, puis tu commences à les assembler, puis tu t'aperçois que l'assemblage est quand même plus intéressant que les cuvées séparées. Donc c'est tout ça pour dire que c'est un travail de longue haleine. On est sur 15 ans de travail, on s'aperçoit maintenant qu'on commence à avoir... un vrai fil conducteur à travers la réponse de nos vignes et nos cuvées commencent à se construire. Puis là, je suis un peu en train de me perdre dans mon explication.
Comment tu sais que tu as compris une vigne ? Quand est-ce que tu sens que c'est bon, tu as compris ce qui se passait ? Qu'est-ce qui te le fait dire ?
Ben on le comprend pas. Enfin, tu le sais jamais. Tu le sais jamais parce que on est dans, avec les préceptes de la biodynamie, donc ça veut dire que tu es dans l'interaction permanente du vivant. Et à partir de ce moment-là, quand en plus tu mets le climat qui change de façon assez rapide en ce moment, tu sais jamais quand ta vigne elle est bien. Par contre, il y a quand même une chose, c'est que, et c'est ce que je te disais précédemment, c'est que au bout de 15 ans de bio, de biodynamie, de succès mais d'échecs aussi, il y a un rythme qui s'est imposé, donc je crois qu'on commence à se connaître un peu plus. Par rapport à ce que faisaient mes parents, on leur a donné une atmosphère un peu différente et une expression différente. Donc là, on commence à se comprendre au bout de 15 ans. Mais c'est comme un couple. C'est-à-dire que jamais tu y arriveras, ou avec des enfants, mais peut-être plus comme un couple. C'est-à-dire que bah, tous les jours, quand tu te lèves, il faut te poser la question de savoir ce qui va se passer demain, et puis où tu vas dans 10 ou 15 ans, et ce que tu vas faire de ta vie avec elle, parce qu'on est marié avec elle quand même. Et l'idée, c'est que ça sera la réponse ne sera jamais la même tous les ans, la réponse n'est jamais la même tous les mois, donc il faut arriver à la comprendre et puis à essayer de viser. Avec Sylvain, on a la vision de faire un Cabernet Franc à Chinon qui soit plus sur la souplesse, parce que c'est aussi la nature de notre terroir, mais avec une expression singulière du Cabernet Franc. Ça veut dire fraîche, avec cette petite touche de végétal qui caractérise le Cabernet Franc à la Loire, mais un variétal mûr. On n'a pas l'habitude de parler de végétal, mais plutôt d'un variétal mûr qui nous permet d'avoir des vins qui s'expriment dans la rondeur, dans le plaisir, dans une certaine fraîcheur, mais aussi dans une belle maturité. Donc tu vois, on leur laisse du feuillage pour que ça s'exprime bien et qu'on ait des belles maturités. Mais c'est du coup un accompagnement permanent. Cette année, par exemple, on a, tu vois, regarde, elles sont en train de pousser, elles sont toutes vertes. On est au 1er septembre, là, bientôt, c'est pas habituel. Donc on se demande, tu rognes ou tu rognes pas. Moi, je me dis non, on les rogne pas, on les laisse s'exprimer. Et puis, c'est comme ça que le cycle va aboutir correctement. Et puis que derrière, elles auront une bonne mise en réserve et que le printemps prochain, ça se passera bien. Par contre, on aurait des jeunes feuilles qui seraient pleines de mildiou. Donc, avec une attaque importante, on les aurait rognées. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est que c'est une adaptation permanente. Donc, même si tu as un fil conducteur général qui te permet de savoir où tu veux aller, c'est la vision. On a une vision ensemble. À 10-15 ans, on sait où on veut aller. Mais par contre, de façon quotidienne, bah, c'est comme avec ta femme ou avec ton homme. Tous les matins quand tu te lèves, il faut te demander s'ils sont d'accord ou pas, si tu fais bien ou pas, et comment tu vas faire que tu vas bien passer les 15 prochaines années de ta vie avec eux, parce que bah, une vigne, c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à avoir des vieilles vignes. Tu vois, nous, les vignes qui sont devant toi, on n'a pratiquement pas de maladies. On parle d'ESCA, nous, beaucoup en ce moment. On n'a pas beaucoup de cèpes malades, raisonnablement. Parce qu'on a aussi des tailles douces, parce qu'on a formé les gens avec cette taille, parce qu'on a des équipes qui sont amoureuses de ce qu'elles font, et c'est ça la biodynamie et l'interaction du vivant. C'est pas de la biodynamie pour faire de la biodynamie, mais c'est de la biodynamie pour l'interaction du vivant. C'est-à-dire que les gens qui viennent donner un coup de sécateur ou qui viennent palisser le végétal, ils viennent avec une intention. Alors, parce que c'est pas Nicolas et Sylvain qui font tout, c'est pas possible. Donc on a une équipe autour de nous qui a cette motivation, je pense, j'y crois, qui a cette motivation et qui, quand donne un coup de sécateur, a une vraie intention, comprend le système des vaisseaux à l'intérieur du cep, donc va pas les contraindre, donc va permettre à ce que ta plante elle soit en pleine forme et qu'elle tombe pas malade. Et on le voit, elles vont bien nos vignes. Donc c'est ça la vision commune et cette interaction du vivant entre notre sol, nos cèpes et les humains, quoi.
Ton mode de taille, il a changé par rapport à tes parents ou même par rapport à quand t'es arrivé au domaine, enfin revenu au domaine?
Alors à Chinon, on a notre décret d'appellation nous autorise que la Guyot simple. Donc la Guyot simple, c'est un bois long. Tu as le droit à 12 yeux francs, je crois, sur le décret d'appellation. Donc c'est entre 6 et 8 yeux francs sur ta baguette et 2 yeux en courson de l'autre côté de ta souche. Donc mes parents taillaient comme ça et nous on taille aussi comme ça. Notre taille, elle a changé, encore une fois, quand on s'est lancé dans la biodynamie et qu'on travaille avec l'intention de se demander comment notre plante va aller un petit peu mieux et puis de se dire, mais finalement, nos cèpes tombent malades, pourquoi ? Alors, est-ce qu'on remet des produits chimiques ou est-ce que finalement, c'est qu'on n'a pas compris l'idée de la taille et qu'on n'a pas compris finalement nos flux de sève et que le problème, c'est plutôt nous et pas la vigne. Quoi. Et là, on est tombé avec un homme qui s'appelle Marceau Bordarias, qui pratique la taille douce et qui nous a formés depuis 5 ans. Et qui forme toute l'équipe 2 fois par an, une fois pour la taille, une fois pour les ébourgeonnages. Parce que l'ébourgeonnage est finalement aussi important que la taille, c'est là où tu donnes la deuxième intention de développement de ta vigne. Et avec Marceau, on a compris ce qui se passait au cœur d'un cèpe, on a compris les vaisseaux, le sens de la sève, les vaisseaux principaux et comment il fallait arriver à tailler un cèpe de vigne pour ne pas le contraindre et le laisser libre. Par rapport à ce que faisaient mes parents, on a vraiment changé là-dessus. Je veux surtout pas et à aucun moment dénigrer ce qu'ils ont fait parce que c'est le travail d'une génération et on n'aurait sûrement pas fait mieux qu'eux. Mais c'était plutôt une taille systématique. Alors que là, on a appris à laisser la plante se développer dans un certain sens, à laisser des rappels pour que tout s'exprime mieux. Et je pense qu'on a une taille plus douce que celle de nos parents. Donc oui, ça a vraiment changé.
Tu viens de mentionner l'ébourgeonnage. Je vais poser une question technique un peu de béotien, mais pourquoi est-ce que tu décides de débourgeonner et pas simplement de tailler plus court en hiver pour avoir moins de bourgeons sur ton pied ?
Ben, l'équilibre de ta plante et le talent du viticulteur, donc la personne qui va passer sur ton cep, c'est d'être capable de comprendre sa vigueur. Ça ne sera jamais parfait. Un bois de vigne est composé de multitudes de bourgeons. Sur le vieux bois, donc les bourgeons du vieux bois, et puis sur les prompts bourgeons que tu laisses autour de ta couronne, tu as des multitudes de bourgeons. En fonction de l'intensité solaire et du millésime et du développement au printemps, tu as plus ou moins de bourgeons qui sortent. Donc c'est pas parfait, tu peux pas... Un cep où tu vas laisser 8 yeux francs sur l'ensemble de ton cep, et le cep d'après, qui est un peu moins vigoureux, tu vas en laisser 6... Dans tous les cas, même si tu as adapté ta vigueur, tu auras des seconds bourgeons qui vont partir. Et notre travail d'ébourgeonnage, qui est obligatoire malgré tout, parce que nous, on part du principe qu'il faut qu'on ait des vignes en santé. C'est-à-dire qu'on fait des composts, on leur amène des aliments, donc on a une vigueur dans nos vignes. On est quand même là pour produire du raisin, on est des viticulteurs. Ce qui est notre source de revenus principale, c'est le raisin. Et il faut qu'on ait des vignes qui soient en pleine forme, tu vois, on a des vignes qui ont de la vigueur pour produire du raisin. Donc ces vignes-là, à nous de comprendre l'équilibre vigueur, mais il faut que dans tous les cas, elles vont te sortir des seconds bourgeons qu'il va falloir enlever pour justement permettre au flux de sève de mieux fonctionner et de lutter en ce qu'on appelle en prophylaxie, donc en amont des problèmes, d'enlever les seconds bourgeons du bourgeon principal pour éviter les entassements, pour éviter la pourriture, pour permettre, on est en lutte bio, donc pour permettre au soufre et au cuivre de mieux pénétrer dans le feuillage et d'avoir plus d'efficacité, donc d'en utiliser moins derrière. Donc on a absolument pour nous besoin de gérer cet équilibre-là. La vigne est une liane, on peut pas laisser tout pousser au même endroit et sur le même cep. Parce que notre travail, c'est de l'emmener. On est des sculpteurs de végétal. On a bien conscience que c'est un élevage qu'on fait. Hein. Tu vois, c'est comme les animaux. C'est un peu la même histoire. C'est un élevage. C'est pas des vignes à l'état sauvage. Ça n'a rien à voir. Donc on est là pour la sculpter, pour la travailler, en essayant de se dire qu'on est là pour lui faire le moins de mal possible. C'est pour ça qu'on rogne le minimum. Cette année, on a été obligé parce qu'on a eu du mildiou, mais d'habitude, on tresse un maximum et on étudie ses flux de sève pour que la vigne se sente bien. Quoi.
En passant à la taille douce, là,
oui.
Quelle différence concrète tu as vue dans les vignes et éventuellement dans les vins ?
Alors, dans la vigne, on a vu directement des baguettes mieux alimentées, on a vu moins de mortalité dans l'été, c'est-à-dire moins d'apoplexie sur nos cèpes, sur la période de l'été, donc beaucoup moins de maladies. Ce qu'on prenait souvent pour les scars, en fait, c'était de l'apoplexie due à notre mauvaise taille. C'est-à-dire que... Enfin, on rentre dans une autre explication qui peut être assez longue. Mais bon, le phénomène d'apoplexie, c'est juste ça fait des bulles d'air au moment de l'été. Quand l'été, ça tire, les feuilles tirent, on tire trop sur la sève et t'as une bulle d'air qui vient dans ton réseau de bois parce que tu as mal taillé et tu as contraint ton flux de sève à un certain moment. Donc on s'est aperçu avec cette taille qu'on a beaucoup moins de maladies, on a des cèpes, tu vois, qui sont réguliers. La vieille vigne, tu as des jeunes cèpes, mais là, sur la vigne qui est devant toi, elle a 55-60 ans, tout est régulier, tout est propre.
Oui, elle est très belle.
Donc on a un beau résultat. Après, dans le vin, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Dans le vin, tu peux quand même être persuadé qu'à partir du moment où tu as des vignes qui sont en santé, qui produisent un joli cordeau de raisin, ça t'apporte quelque chose de plus intéressant, donc ça c'est dû à la taille, mais nous ça nous a aussi changé notre interprétation de vinification, de date de maturité. C'est un ensemble de petits éléments qui font qu'à la fin on obtient un tout, donc ça a forcément changé quelque chose, mais depuis 5 ans te dire exactement ce que ça a changé, on a certainement, ben, tu peux imaginer que comme tu as un végétal qui est plus en forme, qui a des flux de sève qui sont plus réguliers, qu'on a des grappes un peu mieux alimentées et qu'on amène, qu'on a finalement des mous plus concentrés, qu'on a des vins qui se tiennent un petit peu plus, dans le sens où on a des vinifications qui sont peut-être un peu plus droites et on obtient des vins qui sont plus directs. Tu vois, cette notion entre un vin direct et un vin indirect, ça ne veut pas dire grand chose, mais pour moi un vin direct, c'est un vin qui va s'exprimer dans une certaine netteté, dans une certaine droiture, et comme je le disais tout à l'heure, où on va obtenir des cabernets francs qui vont être pulpeux, généreux, sincères, et tu sais où ils vont. Et un vin indirect, c'est un vin qui est assez large, où ça part un peu dans tous les sens et où l'aromatique n'est pas vraiment très bien définie. Nous on pense que ce type de taille nous aide à avoir une aromatique dans les vins un peu plus définie, mais je ne suis pas capable de t'expliquer vraiment pourquoi et comment. C'est la sensation du vigneron, là.
Non, mais je pense que tu l'as dit. Déjà, si tu as des vignes qui sont en bonne santé, en meilleure santé qu'avant, on peut imaginer quand même que ça va se traduire sur les vins oui. assez facilement. T'as mentionné déjà, t'as parlé de style des vins, t'as parlé de vision des vins et puis de vision à long terme. Est-ce que depuis 2008 que tu es au domaine, ta vision, elle a évolué ?
Ah oui, elle a évolué plusieurs fois. Et heureusement, quand je suis arrivé, je travaillais dans le sud de la France et puis j'ai fait un petit tour du monde où j'ai travaillé dans différents pays j'ai voulu produire des cabernets francs qui étaient plutôt, tu vois, modernes, avec pas beaucoup de rendement, vraiment pulpeux, pas forcément aller chasser au maximum la pyrazine. La pyrazine, c'est cet élément, quand le cabernet franc est pas très très mûr, qui te donne ce que les anglo-saxons appellent le poivron, ce côté green pepper, et chasser absolument ça. Donc j'ai remonté les palissages, j'ai fait beaucoup de vendanges en verre, ça dans les 3-4 premières années de travail ici. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut peut-être que tu évolues, toujours en se disant que les gens que j'ai pu rencontrer m'ont toujours dit, les gens intéressants et qui avaient un peu d'expérience, m'ont dit, tu sais Nicolas, il faut entre 10 et 15 ans pour que tu puisses avoir une vision concrète et sincère de ton vignoble et puis de savoir où tu veux aller. Donc partant de ce postulat-là, je me suis dit, écoute, pendant 3-4 ans, tu as essayé ça, donc des rendements pas très importants, des concentrations assez importantes, toujours en élevage en cuve béton ou en cuve en inox, dans l'idée d'avoir la pureté du cabernet franc. Et puis 2010-2011, je me suis dit, écoute, tu vas pas mourir con quand même. Il faut peut-être qu'à force de goûter des vins chez nos collègues de Chinon et puis dans la Loire, il y a quand même des gens qui travaillent avec des macérations assez longues. À ce moment-là, j'étais sur des macérations de 25 jours, sur des macérations assez longues et puis avec des élevages en fût. Donc 2010, 2011, 2012, 2013, j'achète différents fûts, j'achète différents bois, je fais des essais. Avec des macérations un petit peu plus longues, j'essaye de me dire, eh ben, je vais sculpter un vin, peut-être un peu différent, mais peut-être plus sur la longueur aromatique, plus sur la longueur de bouche, avec l'élevage, donc l'élevage bois. Ça dure 4-5 ans, Et puis je ne m'y retrouve pas, j'ai du mal à trouver des bons tonneliers, parce que c'est aussi un problème dans notre profession. Trouver des bons bois, un tonnelier avec qui tu peux vraiment avoir confiance et travailler en symbiose. Et là, je ne m'y retrouve pas vraiment. Finalement, Sylvain m'en rejoint en 2017 et on décide tous les deux d'arrêter les macérations très longues et les élevages en bois, sauf pour un terroir qui s'appelle Montette. Mais sur notre terroir ici, on a des pH qui sont quand même assez hauts et naturellement des expressions de Cabernet Franc assez faciles. Donc on repart, on fait marche arrière, on arrête les fûts, on achète des cuves en béton spécifiques qu'on fait faire un peu sur mesure en fonction de nos chais et de la forme de nos parcelles. Et là, on repart sur des macérations donc un peu plus courtes, entre 20 et 25 jours, toujours en levure indigène, avec derrière des élevages en béton pour les 90% du domaine. Donc j'ai eu trois phases un peu. Cette première phase avec une première intention et une phase d'adaptation. La deuxième phase où j'ai voulu aller un petit peu plus loin, et puis c'est la théorie de l'œuf brûlé, c'est-à-dire que tu sais jamais quand on a fait trop brûler que si tu l'as brûlé. Donc il faut aller un petit peu plus loin. Pour savoir où tu veux pas aller, il faut au moins y aller. Et au moins tu sais que tu n'as pas envie d'y aller. Donc aujourd'hui, avec Sylvain, on a défini plus une vinification un peu plus douce et des élevages cuves pour avoir une expression plus singulière. Donc pour répondre concrètement à ta question, on sait où on veut aller, mais je ne dis pas que les choses ne vont pas changer. Peut-être qu'on, dans 10 ans, on se revoit et puis on se dira, bah là, on a évolué un petit peu. On est heureux parce qu'on a une vraie... ça y est, on est au bout de 15 ans, on est posé dans notre terre, on est ancré dans la terre, on sait où on veut aller, on a un schéma, on a un fil conducteur. Maintenant, ce fil conducteur, comme la conduite de la vigne, et ta question précédente, ce fil conducteur, il n'est jamais arrêté. Il évoluera tout le temps. Il y a toujours des essais qui se baladent un petit peu avec du bois, avec différentes formes d'éléments, etc.
Tu as travaillé où dans le sud de la France ?
J'ai travaillé pour un négoce de la Loire à l'époque, je sortais de BTS et j'étais sous le joug du service militaire. Autant j'avais rien contre le service militaire, mais j'étais plus intéressé pour travailler dans la vigne que pour aller faire l'armée. À cette époque-là, tant que tu avais des CDI, tu pouvais repousser ton service militaire. Donc il y a un négoce de la Loire qui avait acheté un domaine dans le sud de la France, dans le Minervois, sud Minervois, au bord du canal du Midi, d'une trentaine d'hectares, et qui me l'a confié pendant 2 ans. Donc ça a été mon expérience dans le sud, autour de Bourvèdre, Carignan, Merlot, Syrah.
C'était une bonne expérience, ça ? Ça t'a plu ?
Ah ben, je sors de BTS, j'avais 20 balais, je me retrouve avec 30 hectares, tout à faire et tout à monter, et un budget pour acheter le matériel, on a tout construit. Donc ouais, c'était une super expérience, c'est formateur.
Ton frère et toi, vous avez pas mal bourlingué quand même. T'as travaillé en Oregon, t'as travaillé en Australie, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a décidé à revenir ici ? T'aurais pu continuer à voir du pays
Moi, j'ai jamais voulu partir. Regarde, t'as vu ce que t'as autour de toi. Quand t'as la chance de pouvoir reprendre ça, avec des parents qui t'accompagnent un peu, moi, j'ai toujours été persuadé de revenir ici. Le lieu, il est magnifique et le Cabernet Franc me plaît beaucoup. Donc, je suis parti comme Sylvain, mon frère. On est parti parce qu'on a des parents qui nous ont poussé à partir, ce qui était plutôt assez intéressant. Et puis c'était dans l'idée de multiplier les expériences et d'emmagasiner des informations. Et ce qui m'a fait revenir, c'est que je devais partir bosser en Inde. Ça ne s'est pas fait. Et mes parents, à ce moment-là, nos parents me disent « Écoute, nous, on commence à vieillir un petit peu, les gars, il va falloir vous poser des questions et des bonnes questions. » Et puis, donc j'avais fait 2 fois le tour du monde. On était en août 2005. En Inde, on me dit, finalement, on ne travaillera pas avec toi, on travaillera avec quelqu'un d'autre. Mes parents vieillissent un peu, tu te lèves un matin. 2005, super belle année, on avait fait un été fantastique. À passer des vendanges sous le soleil, c'était génial. Et puis tu te dis, faut rester là, quoi. Donc 2006, je suis resté là et c'est ça ce qui m'a poussé à rester. Mais j'ai toujours voulu revenir là, moi. J'ai eu une expérience à Saumur-Champigny pendant 3 ans parce que je voulais travailler dans le Cabernet Franc.
Qu'est-ce qui te plaît tant dans le Cabernet Franc ?
La réponse du cépage. Alors c'est un cépage qui est assez facile à travailler finalement parce qu'il est assez rustique. Il a un port qui se tient bien, toi, t'es pas sur un gros lot où c'est plus compliqué. Et puis, Et puis ce côté, le Cabernet Franc, visiblement, viendrait du Pays Basque espagnol. Toi. Donc ça a un peu ces connotations-là. Ça a l'air sympathique, mais ça ne l'est pas tant que ça. Hein, tu vois ce que je veux dire? Cabernet Franc, il peut avoir des facettes extraordinaires. C'est un danseur étoile. Ça peut être génial quand tu as compris ton sol, quand le vignoble va bien, quand tu as la patience de le laisser élever longtemps en cave et qu'au bout de 3-4 ans, tu arrives à le commercialiser parce que tu as des équilibres. Tu as cette fraîcheur variétale unique, et surtout chez nous à Chinon, qui fait qu'à 3-4 ans, c'est un cépage qui t'emmène dans des aromatiques de sous-bois, mais de sous-bois de début d'automne, tu vois, pas fin d'hiver, pas la feuille morte et qui est en train de pourrir, de cette feuille qui tombe avec des fraîcheurs et une complexité aromatique qui t'emmène dans d'autres paysages en dégustation qui sont assez étonnantes. Donc, ouais, et puis ça reste un cépage bien posé là et facile à travailler. Donc, c'est cet ensemble qui fait que ça lui va bien.
Il n'y a pas quelque chose de frustrant à travailler un seul cépage alors que tu as navigué dans des domaines qui faisaient 3, 4, 5 cépages différents et avoir travaillé avec la Grenache, le Mourvèdre, le Pinot Noir, le Chardonnay, ce genre d'autres cépages?
Alors, on a au-delà du domaine, on a d'autres activités avec Sylvain. On fait un peu de négoce chez des copains dans le sud-ouest où on travaille de la Syrah, du Merlot, le Fer Cervadou, qui est un cousin du Cabernet Franc, du Ras. Donc aujourd'hui, on arrive à s'exprimer et à s'amuser avec d'autres cépages hors d'ici. Ici, non, parce qu'on est des fervents défenseurs de l'appellation contrôlée. On est né ici avec cette appellation Chinon de 1937, Cabernet Franc à 100%. Ça a été une révolution, tout se discute. On aurait pu garder d'autres cépages, mais ça a été fait comme ça. Et on a le droit d'avoir un peu de Cabernet Sauvignon sur l'appellation Chinon à 10% de ton encépagement, mais nous on n'en a pas, on n'a que du Cabernet Franc. Ce qui a construit finalement l'histoire de notre famille, l'histoire du paysage qui est devant toi, l'histoire du vignoble et des gens qui le composent, c'est l'appellation contrôlée, avec ce Cabernet Franc. On est vraiment respectueux de ça, et c'est notre identité. C'est devenu de façon assez contemporaine, hein, il y a 50 ans, la nouvelle identité de la vallée qui est là. On a en plus la chance malheureuse du changement climatique. Donc on a des Cabernet Franc qui mûrissent bien et on fait des on n'a jamais fait autant de bons Cabernet Franc que depuis la dernière décennie. Donc on est à un moment où le cépage s'exprime bien et c'est notre identité. Je crois qu'il faut qu'on la véhicule et on n'a pas la frustration d'être que sur un seul cépage. C'est au contraire une chance. C'est une chance assez étonnante parce que tu peux faire plein de choses avec ce cépage-là et on n'a pas cette frustration-là. D'autant plus qu'avec les autres activités, on arrive à s'exprimer sur d'autres cépages.
Alors, puisque tu abordes le sujet de Chinon, je vais poursuivre là-dessus. Oui. En prenant un petit peu de hauteur pour commencer. Pourquoi est-ce que Chinon, c'est un grand terroir?
Alors, c'est un grand terroir parce que c'est un affluent de la Loire. Ça y est, on est de la Loire, tu as la Vienne devant nous. La Vienne, c'est affluent de la Loire par le sud. On vient du Limousin, nous. On est caractéristique à cause et grâce à ça. C'est-à-dire que notre vallée, elle est posée sur des graviers roulés, des miarges de ce côté-là, de la tuf de l'autre côté. C'est un grand terroir, Chinon, parce que c'est une multitude de terroirs. Avec, comme disait Puisé, une climatologie bien particulière. On a une rosace des vents qui n'est pas attachée. Ça veut dire qu'on a des vents tournants en permanence au sein de la vallée. Ça donne une singularité au terroir chinonais. Et c'est ça ce qui fait sa grandeur. C'est-à-dire qu'on dit qu'à Chinon, tu as autant de vignerons que tu as de terroirs. Tu vois, dans la vallée de Puy-Vallon qui est derrière nous, tu as encore un autre style de terroir. Mais tu as un fil conducteur. Tu as un fil conducteur avec cette climatologie qui te permet d'avoir une jolie maturité des Cabernet Franc et très singulière. Donc c'est ça la grande qualité de Chinon. Et la grande il y a aussi une qualité qui est, à mon avis, peut-être pas assez exploitée à Chinon, c'est que tu as les deux côtes. Donc tu as la rive droite et la rive gauche qui te, sur les coteaux où tu peux produire des chinons justement dans le style des appellations. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, 1937, tu étais limité à un rendement de 40 hectares sur une moyenne de 5 ans. Et à 40 hectares, sur tout ce que tu vois ici, tu obtiens des maturités qui sont top et tu peux faire des grands vins dans la vallée. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y a des grands terroirs dans la vallée, mais dans sa grande majorité, c'est aussi ça la qualité de Chinon, c'est que tu peux faire facilement des vins de soif. Donc tu vas obtenir des rendements un peu plus importants parce que ta terre est plus nourricière, donc tu vas monter à 50 hecto-hectares. Mais si tu fais des macérations assez courtes, tu obtiens des Chinons qui vont être frais et fruités, qui vont être faciles, qui vont être des Chinons de printemps. Et la grande force de Chinon, c'est ça, c'est que d'un côté, tu peux faire des grands vins qui sont dédiés à la garde, et puis de l'autre côté, tu peux, sur la partie de la vallée, tu peux faire des vins qui vont être sur des macérations, encore une fois, très courtes. Il faut savoir écouter sa matière. Tu vas faire des Chinons qui vont être fruités, pulpeux, gourmands, des canons, quoi.
Tu as mentionné dans le décret d'appellation là, de 37, le choix du Cabernet Franc. C'était quoi les autres possibilités et pourquoi est-ce qu'on s'est fixé, pourquoi est-ce qu'ils se sont fixés là-dessus à cette époque-là ?
Je ne suis pas très bon sur cette histoire, sur l'histoire viticole, mais visiblement, il y avait quand même les lobbies des pépiniéristes, il y avait des lobbies de marchands de vin qui considéraient que la multitude des cépages dans les régions posait problème. Et poser problème parce que y avait des problèmes de stabilité, il y avait des problèmes d'approvisionnement de certaines catégories. Donc ça a arrangé un petit peu tout le monde que les appellations se retrouvent derrière divers cépages. Au-delà de ces considérations-là, pardon, que je ne vais pas être capable d'affiner complètement, et là, il faudra faire appel à un historien, mais il y a ce contexte économique qui fait qu'on a aussi choisi le Cabernet Franc. Au-delà de ça... visiblement, nos pères, donc les gens qui ont constitué cette appellation d'origine, ont décidé sur quatre appellations importantes de Loire, que sont Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, Saumur, Champigny et Chinon, que le Cabernet Franc serait le cépage plus qualitatif. Il est le plus qualitatif parce que c'est aussi quatre appellations qui sont bercées sur des terroirs de silice avec du sable, donc des sols plutôt chauds. T'as pas le Cabernet Franc à Vouvray, à Mont-Louis, parce que c'est des sols qui sont plus froids, donc le Chenin s'exprime mieux là-bas. Chez nous, c'est le Cabernet Franc. Donc ils ont décidé, et il n'y a pas que Chinon, il y a les trois autres appellations, ont décidé que le Cabernet Franc était le plus adapté sur leur terroir. Ils l'ont décidé de concert, ils l'ont décidé avec une histoire, faut se remettre en position. 1930, tu te retrouves dans la situation où l'agriculture n'était pas la même. Il y avait un empirisme, il y avait une appartenance au lieu qui était importante. Et à cette époque-là, ils écoutaient un petit peu plus les saisons et les terroirs et les cépages. Ils travaillaient tout au cheval. Ils ont certainement sélectionné le cépage le plus résistant à ce moment-là aux maladies, mais aussi le plus qualitatif. Et ils ont eu la volonté... c'était les appellations ont été créées, je crois, je le pense, dans la volonté de qualité, dans la volonté d'excellence. Et à ce moment-là, ils ont décidé que tous ensemble, de concert, le cépage le plus intéressant et le plus apte à produire des vins de qualité et des vins de qualité à long terme était le Cabernet Franc, donc ils ont choisi le Cabernet Franc.
Aujourd'hui, avec le changement climatique et le réchauffement qui va avec, est-ce que le Cabernet Franc, il est toujours aussi bien adapté ici ? Est-ce qu'il commence à souffrir un petit peu ?
Bah là, il ne souffre pas beaucoup, comme tu le vois.
Mais c'est vrai que là, on est en septembre, il y a un petit air de printemps quand même, avec beaucoup de feuilles, ouais. Il ne fait pas très chaud, il y a même des roses dans le jardin, c'est assez étrange.
C'est ça, on vit un été un peu particulier, mais... Non, il souffre pas notre Cabernet Franc là. Même l'année dernière, on a eu nos 3 semaines de sécheresse. Alors évidemment, il y avait moins de jus dans les raisins, mais ça n'a aucune commune mesure avec ce que nos amis des PO, des Pyrénées-Orientales, connaissent. C'est-à-dire qu'on a quand même, des saisons qui restent relativement fraîches et un cépage qui s'adapte bien. Donc on a pas de souci par rapport à la climatologie, pas pour le moment. On a, ce que je disais tout à l'heure, la chance quand même de connaître une période où il fait un peu plus chaud. On a des cumuls de températures plus importants, donc on a des maturités qui viennent plus facilement. On vendange aujourd'hui autour du 20 septembre. Nos parents vendangeaient plus autour du début octobre. Donc on a 10-15 jours de différence aujourd'hui. Et on a un cépage qui, là, est bien adapté. Et je pense qu'il est bien adapté pour les 20 prochaines années. Maintenant, c'est ma vision. Il y a des essais qui se font un petit peu partout, de planter des Syrah, des hybrides. C'est bien que ça se fasse. Essayons. Et ça recréera certainement l'histoire. On est des contemporains, donc il faut qu'on soit acteurs de nos terroirs. Est-ce que effectivement, je te dis une bêtise, mais est-ce que le Merlot sera le cépage adapté dans 50 ans ? Peut-être. Maintenant, faisons des essais, voyons ce que ça donne, et puis changeons les décrets d'appellation. Il va falloir que ces décrets d'appellation qui ont été... Alors, il faut savoir que ces décrets d'appellation, depuis 1937, ils ont changé au moins une cinquantaine de fois. Donc ils ont toujours été un petit peu adaptés pour la chimie, pour la productivité, etc. Ces décrets d'appellation, ils vont évoluer, et les cépages, et l'évolution cépage en fera certainement partie. Maintenant... Prenons le temps de faire les choses et puis laissons les vignes qui ont été plantées sur d'autres cépages dans la région produire et voyons ce que ça donne pour prendre une vraie décision. Donc laissons la place au Cabernet Franc là, pendant quelques décennies parce qu'il est beau, il se vendange bien et on fait des beaux chinois, on est content.
Alors je ne voulais pas forcément sous-entendre qu'il fallait changer de cépage, même si c'est vrai qu'il y a tout un tas de régions où on parle de ça et avec le changement climatique c'est le sujet qui paraît le plus évident, peut-être, de changer de cépage. Est-ce que ce changement climatique et ce réchauffement, ça redessine une carte de la qualité des parcelles ici ? Est-ce qu'il y a des parcelles qui étaient un peu dévalorisées, parce que, par exemple, un peu fraîches, elles sont vues d'un autre œil ? Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des parcelles qui étaient bien exposé, coteau sud, terroir bien drainant, est-ce que c'est vu un petit peu différemment parce que maintenant, les vignes ont tendance à souffrir sur ces endroits-là ?
Alors, c'est une bonne question. Sur le pressoir, au domaine Grosbois où tu es là, on ne le sent pas vraiment. Par contre, sur la rive gauche, de l'autre côté de Chinon, et où finalement les terroirs sont plus froids, où tu as 15 jours de différence par rapport à nous, tu commences à sentir une vraie différence. Donc avec des vins qui s'ouvrent beaucoup plus et des vins qui avaient besoin de 3-4 ans pour trouver l'équilibre ont finalement besoin de beaucoup moins de temps maintenant. Et ça se sent aussi sur des appellations comme Azay-le-Rideau. Derrière la vallée, on a un petit domaine, le domaine des Aubaigneux. Sur l'appellation Azay-le-Rideau, t'as des chenins qui servaient plus à faire des bulles, tu vois, dans l'idée. Donc des équilibres de maturité qui n'étaient pas très importants. Et là, depuis 4 à 5 ans, on a des maturités qui sont beaucoup plus intéressantes, qui viennent beaucoup plus rapidement. Donc au sein d'un domaine, nous, on ne le sent pas vraiment. Tu vois, d'une parcelle à l'autre, de celle-ci à celle-ci, parce que l'alimentation est à peu près la même et l'éclairage aussi. Mais sur des vallées dans la Loire, effectivement, qui étaient plutôt froides, là, ça commence à vraiment être intéressant. Donc, on le sent à ce sujet-là.
On continue notre tour. Allez. On marche un peu.
Là, on a la partie du Clos du Noyer. Là où tu as une terre mi-arge un peu plus rouge. Et tu vois, quand tu touches la terre, on a beaucoup de silice. Tu vois, elle est pas collante, elle est pas amoureuse, notre terre. Et c'est la silice qui fait que tu as une granulométrie de sol qui est plutôt intéressante, souple, facile à travailler. Alors chez nous, on ne craint pas trop, tu vois, tu peux prendre 30 mm d'eau, deux jours après, tu peux rentrer dans les vignes. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et quand tu mets ta main dans le sol, la terre est chaude. C'est pas froid, quoi. Tu vois, tu sens cette chaleur un peu humide, là, parce qu'il a plu il n'y a pas très longtemps. Mais c'est cette silice. Les anciens disaient chez nous que c'était septembre qui faisait le vin. Et au mois de septembre, la différence, justement, des appellations de Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Champigny, c'est que cette silice qui est dans ton sol te permet de capter la chaleur de la journée et de la restituer la nuit. Et le microclimat de nos petites vallées, là, donc notamment de Chinon, c'est ça la différence. C'est ça ce qui va permettre à ton Cabernet Franc, toi, de passer du cap mûr au cap mûr et d'avoir des Cabernet Franc avec lesquels on obtient des super belles maturités. À la différence de Hazel Rideau, derrière la petite vallée plus froide, où là, nous, au mois de septembre, on a toujours 3-4 degrés de différence le matin. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce sol ici où s'il fait plus chaud, on a plus de brume, nous, à Chinon, que de l'autre côté, parce qu'on a cette chaleur et cette humidité qui ressort du sol et qui fait que le Cabernet Franc mûrit bien.
Je profite qu'on soit dans les vignes, là, il y a donc face aux raisins. Est-ce qu'on peut en goûter un ?
Ah ben oui.
Tu me décris ce que tu sens et je voudrais que tu me dises ce qui manque pour toi aujourd'hui pour que ce soit mûr.
On vient de manger des figues, ouais. C'est pas facile. Mais là, on est sur la jeune vigne du Clos du Noyer. Donc ça, c'est une sélection de Massal qu'on a faite de la clôture qui est juste derrière nous. Donc on est sur une jeune vigne. On a, dans un premier temps, tu vois tout de suite que sur tes... Bon, là, on a quelques graines qui ont été touchées par le mildiou. Mais on voit que la base est pas tout à fait rouge de nos baies. On est à 2 semaines de la récolte. Mais l'idée, c'est pas de croquer les pépins à ce stade-là. On sent que c'est sucré. On a l'acidité qui vient sur le devant de la bouche. On a une pulpe qui est encore bien structuré, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle évolue encore un petit peu, mais surtout quand tu fais attention à tes pépins. Là, je suis en train de les ressortir de ma bouche, tu vois qu'ils sont ils sont verts. Et une fois que tu as ressorti tes pépins, tu mâches ta peau longtemps, et quand tu la mâches, là tu ressens ce côté végétal, là, ouais. Tu l'as là, bon. Ben ça, c'est que c'est pas mûr. Quand tu cumules la couleur de ton pépin, tu vois, qui est vert, donc pas lignifié, c'est-à-dire que ta pulpe ne l'est pas non plus, et cette peau qui est végétale, c'est que c'est pas mûr. Il faut que cette peau elle te fasse plaisir. Ouais, il faut que tu trouves le... c'est là où, justement, c'est l'équilibre du vigneron, et puis de ça, c'est là où tu vas déterminer le début de la naissance de ton vin. Faut que tu le ramasses quand ça te plaît ou quand ta vision correspond au goût. Mais moi, là, c'est du végétal à la fin, tu vois, sur la longueur de bouche de ta peau.
Ah oui, c'est vrai qu'on sent quelque chose d'un peu vert, oui, quand on mâche la peau. Ça manque un poil de gourmandise.
Ça manque 2 semaines de maturité. On est quoi, le 27 aujourd'hui, 27 août. On va pas vendanger avant le 15, donc il y a au moins 15 jours de maturité. Et on a la chance, en plus, que cette année, tu vois, on a quand même des nuits qui vont être à tendance fraîche. Ça va se réchauffer un peu, les journées seront un peu plus chaudes, donc des différences de température. Et c'est ça, c'est les derniers fameux 15 jours dont parlaient les anciens. C'est septembre qui fait le vin. Et c'est cette période de septembre où... Tac, ça glisse sur le où tu fais mûrir tes peaux et où tu obtiens des maturités beaucoup plus intéressantes pour faire des chinons, tout en gardant l'acidité.
Le fait de ne pas avoir trop de soleil, ça t'empêche d'avoir trop de sucre, c'est ça ? Tu as la peau qui mûrit, mais tu n'as pas de montée de sucre importante.
Exactement, c'est ça. Et puis on a avec la biodynamie et l'équilibre du végétal, on s'aperçoit qu'on n'a pas non plus des degrés qui montent. Même si on a des rendements pas très importants, on n'a pas des degrés qui montent de façon extraordinaire, quoi. Même s'il fait chaud. Tu vois, l'an dernier, on avait des degrés à 12,5, 13, pas plus. Alors qu'en 2005, quand je me suis installé, 2006, 2007, en 2007 un peu moins parce qu'il a fait frais, mais tu avais des trucs à 14,5. Quand on avait des sols qui étaient complètement tassés, des vignes qui s'exprimaient différemment. Et là, je trouve que ça rejoint tes questions de tout à l'heure. Mais maintenant qu'on est dans les vignes, ça se sent un peu plus pour moi. C'est qu'on a des vignes qui sont plus apaisées, qui vont moins monter en sucre. Tu vois, c'est comme un ado, quoi. Si tu l'apaises pas un petit peu, ça monte dans les tours. Mais là, c'est un peu ça.
C'est aussi le changement de pratique culturelle qui a permis de faire ça. Je pense au bio et à la biodynamique, tu as déjà mentionné plusieurs fois.
Alors, en premier lieu, c'est pour moi le plus important, c'était de se passer d'herbicides. Parce que se passer d'herbicides, c'est pas forcément d'aller vers la bio, mais se passer d'herbicides, c'est-à-dire que spontanément, tu vas laisser le végétal ressortir de ton sol. Ton sol va se remettre en route. T'as toutes les graines qui sont en dormant qui vont se remettre en fonctionnement et ton sol va retrouver un équilibre, mais sur le très long terme. Donc ça a été le plus gros changement, l'arrêt des herbicides.
Parce que quand t'es arrivé, les sols, ils étaient un petit peu fatigués.
Ouais, c'était le désert de Gobi chez nous. C'était comme ça. Moi, je me souviens, avec Sylvain, on faisait les tâches. Ce qu'on appelait les tâches, c'est que la génération de nos parents, ils supportaient pas que t'aies un peu d'herbe, une tâche dans un hectare. Donc on passait avec un tracteur et puis on chassait les tâches. Donc c'était vraiment, t'avais rien qui poussait.
Fallait que les vignes soient propres.
Fallait que les vignes soient propres, sinon t'étais un mauvais vigneron. C'était ça.
C'est quoi le chemin qui t'a amené vers la bio et la biodynamie ensuite ?
En premier lieu, notre maman. Jocelyne, qui quand on a fait nos études viticoles, nous a toujours poussé à aller voir des vignerons en bio, parce qu'elle a fait cette sensibilité-là, en se disant que c'était pas possible que les agriculteurs traitent. Elle a connu dans les années 80, mon père allait traiter et passer une semaine à vomir derrière parce qu'ils se protégeaient pas et qu'ils utilisaient des produits qui rentraient en cutané et ça les rendait malades. Heureusement, ils vont bien aujourd'hui, mais tellement sont morts à cause de ça. Elle a dit, non mais les gars, à la fin elle aimait ses enfants, donc logiquement, comme une bonne maman, elle a dit, mais touchez pas à ça, c'est dangereux, ça rend malade quoi. Donc en premier lieu notre maman, et puis après, assez rapidement, quand tu grandis, que tu voles de tes propres ailes et que tu cumules tes expériences, tu t'aperçois que les vins que t'aimes, c'est quand même des vins qui sont souvent issus de bio. Moi, avec Sylvain, on a eu des cursus scolaires où on nous a toujours dit que si tu travaillais en bio, tu ne ferais jamais grand-chose, tu ne saurais pas produire et que c'était la ruine. Nos manuels scolaires étaient payés par Monsanto, Bayer et Sandoz, quoi.
C'était dans les années 90, ça ?
C'était dans les années 90. Aucune sensibilité au bio dans les écoles viticoles françaises, agricoles, je ne pense pas non plus, mais en tout cas, nous, pour les écoles viticoles, aucun module de bio. Donc c'est quand on s'est retrouvé à goûter du vin, à rencontrer des gens qui nous font poser des bonnes questions, des gens qui te mettent plusieurs bouteilles devant toi, puis qui te demandent de choisir sans te diriger, puis spontanément au bout d'un moment tu comprends, enfin tu te dis que c'est quand même des vins qui racontent un peu autre chose, qui sont plus gourmands, qui t'enivrent un peu plus, parce que c'est aussi ça le vin, c'est le bon moment, c'est la fête, c'est ce petit moment d'enivrement qui nous rend heureux sans l'abus. Et tous ces vins-là, ils vont mieux avec tout cet esprit-là. Et assez rapidement, tu dis, si j'aime ça, c'est ce que je veux faire. Donc faut peut-être que je mette en route le processus au vignoble pour obtenir des résultats qui vont dans ce sens-là, pardon. Et puis tu te retrouves face à une population de vignerons, de restaurateurs, de cavistes, qui est tout de suite un peu plus intéressante dans la discussion, dans l'échange. Et donc tu te retrouves avec des copains, et puis c'est assez vivant, c'est forcément des gens qui vont aller chercher de différentes cultures. J'entends culture agricole, mais culture aussi philosophique, et ça amène de l'échange. C'est devenu une plateforme, le monde bio aussi aujourd'hui en France, où y a plein de gens qui étaient pas issus du milieu viticole, qui se sont convertis, qui ont fait des reconversions, et qui amènent autre chose. Tu vois, il y a des gens qui ont fait d'autres études, qui amènent autre chose, une autre complexité, une autre richesse au débat. Et c'est quand même, pour avoir pratiqué les deux mondes, hein, le monde de qu'on va caractériser chimique, même si c'est pas forcément le bon terme, mais le monde de du conventionnel, dirons-nous, et puis le monde de la bio et de la biodynamie, il y a du trop de chaque côté. Il y a des abus de chaque côté, il y a des extrémistes de chaque côté, et ça peut poser un problème. Mais de toute façon, il y aura toujours des extrêmes. C'est comme ça, il faut vivre avec. Mais globalement, dans le nœud de la famille, c'est quand même beaucoup plus enrichissant et intéressant de naviguer dans ces réseaux bio et biodynamiques intellectuellement, et ça fait du bien à la tête, quoi. Et je pense que ça fait du coup du bien aux vignes, tu vois, elles ont l'air heureuses. Parce que si ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien à elles aussi. C'est là la corrélation entre l'humain et le végétal, et où c'est, tout est dans l'intention, et si notre intention elle est bonne et qu'on se dit qu'on les aime, ça sera forcément mieux.
C'est quoi le trop dans le bio ou la biodynamie?
Bah, pour rentrer dans les clichés, c'est le trop de... C'est les gens qui supportent pas qu'on puisse faire autrement, qui supportent pas leur voisin parce que il est encore en chimie ou en conventionnel, mais que c'est sa culture et que tu le bougeras pas. C'est les gens qui font pas avancer l'histoire. C'est le trop de sang souffre ou c'est le trop de... C'est les démarches qui sont poussées à leur extrême, et c'est jamais bon. Tu vois, c'est considérer qu'eux font bon et que les autres font pas bon. J'ai des collègues qui considèrent qu'ils connaissent la bonne démarche pour tout et qu'ils détiennent le savoir absolu. C'est pas tout à fait vrai quand même. Hein, y a des prêcheurs en chimie ou des prêcheurs en bio, t'en as un peu partout, et c'est souvent des gens qui sont des assez sectaires et qui considèrent qu'à partir du moment où tu te poses des questions et qui vont remettre en question leurs idées, leurs idéaux et leurs fondements, et ben t'es un con et t'as rien compris. Mais dans tous les cas, on est obligé de se faire bousculer en permanence, parce que c'est aussi ça ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait grandir. Donc les extrêmes d'un côté comme de l'autre, c'est ça, c'est ces gens qui supportent pas qu'on fasse autrement qu'eux, ou qui supportent pas qu'il y ait d'autres goûts que les leurs, tu vois. Autour d'une dégustation d'un panel de 220 issus de biodynamie ou de bio, on sera pas forcément tous d'accord. Mais on aura nos facilités, enfin on aura nos appétences qui vont nous diriger vers un style de vin. Et c'est ça ce qui est génial. Après, on ne sera jamais d'accord tous, mais ça, il faut l'avoir en tête, c'est normal.
Et c'est tant mieux dans un sens.
Et c'est exactement, ouais. Et c'est tant mieux, ouais.
T'as mentionné le sans-soufre. Dans une certaine zone du monde du vin, on a l'impression que c'est devenu un sujet... primordial, essentiel, enfin ça cristallise un peu les débats.
Ouais.
Est-ce que c'est un sujet important pour vous au domaine là, et comment est-ce que vous avez traité ça si vous vous êtes posé la question?
Alors pour nous c'est une question permanente. On vinifie sans soufre et on amène du soufre dans nos vins à partir du mois de février-mars, tu vois, quand les températures commencent à remonter et que le gaz carbonique est sorti de terre. Pardon, donc tu te retrouves avec des milieux un petit peu moins stables. Aujourd'hui, avec Sylvain, on a fait le choix pour nos domaines, pour le domaine gros bois, de se dire qu'on a l'ambition de faire des vins à long terme. Donc j'entends par là qu'on a, on a au moins 12 mois de cuve, 12 mois de bouteille derrière, on propose des vins avec 2 ans et demi d'élevage, et tu t'aperçois que pour garder la structure, la fraîcheur de nos Cabernet Franc, on met du soufre. Donc quand on met du soufre, nos chinons haut de gamme aujourd'hui, on les met entre 35 et 45 de SO2 libre. Ce qui paraît peut-être important, mais ce qui nous garantit que quand tu vas ouvrir ta bouteille à 5 ou 6 ans, ou à 10 ans, on aura encore du vin derrière. Ça nous fait des totaux autour de 40-50, mais on garde des vins frais pendant longtemps. Il faut savoir qu'en France, tu as le droit de mettre 180 ou 210, je ne me souviens plus, entre les blancs en total. Donc on est quand même plus de 3 fois en dessous de la limite. Et après, pour la partie des vins un petit peu plus gourmands, faciles à boire, qui est cuisine de ma mère, on adhère à un label qui s'appelle VMN, Méthode Vin Nature, qui est un label qui est sorti il y a quelques années, qui est très intéressant, et où là, on se limite à 30 mg de SO2 total. Donc on a une dose de soufre qui n'est pas très importante, mais on en met toujours un petit peu parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire, on fait du vin quand même, hein, on fait quand même pas mal de vin nous, et on n'arrive pas à faire des cuvées garanties qui partent chez nos cavistes et à l'export sans soufre. On a essayé et aujourd'hui on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tenir les vins de façon vraiment régulière et complète. Donc on a fait le choix de mettre du soufre et Aujourd'hui, on ne sait pas faire des cuvées importantes sans soufre.
Est-ce que pour avoir la possibilité de vinifier sans soufre, ça demande un travail et une attention particulière à la vigne ?
À la vigne, tout le long de l'année, non, parce que c'est un travail normal. Je pense que la vendange manuelle est importante pour ça. Effectivement, c'est un surcroît de travail sur la vendange manuelle parce que, par rapport à une vendange mécanique. C'est pour ça que le label V20 méthode nature est intéressant pour ça, parce qu'il t'oblige à la vendange manuelle. Et cette vendange manuelle, elle permet une vendange mécanique, ce sont des batteurs qui viennent frapper ton raisin pour qu'il tombe dans des bacs et qu'après tu le remettes en cuve. Mais entre un fruit que tu tapes, tu vois, c'est comme une pomme, ça va venir choquer ta peau et tu as l'oxydation qui commence à l'intérieur de ta baie. Aujourd'hui, tu as des machines qui travaillent super bien, c'est pas le débat. Mais dans l'idée de se passer de soufre au maximum, et de garder la fraîcheur de tes vins et donc ce potentiel de résistance dans tes vins. Pour nous, le surcroît de travail, c'est de la vendange manuelle. Et la vendange manuelle, et puis après, le suivi de vinification, parce que ça, on a toujours des pieds de cuve dans la cave, donc ça, c'est un surcroît de travail. On ne travaille pas en levure de synthèse, en levure chimique, donc tu as toujours des pieds de cuve dans ta cave, et il faut que tu ensemences rapidement tes cuves pour que ton milieu soit protégé. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant, depuis quelques années, la bioprotection, mais pour que tes cuves soient protégées avec les levures indigènes qui sont dans le milieu. Et ça, il faut savoir les cultiver. Donc après, il faut respecter. Nous, on a des cuves qui sont thermorégulées. Et on n'a pas de problème avec ça. À l'intérieur de nos cuves, ce sont des levures, des micro-organismes. Et qu'il faut savoir, comme dans une cocotte ou quand tu fais de la cuisine, avoir les bonnes températures pour que tes levures soient confortables. Donc ça t'amène un surcroît de travail. Ça, le sans soufre aussi, parce qu'il faut maîtriser correctement tes températures pour que tes vinifications se passent, tes fermentations alcooliques se passent bien, assez vite, pour pas que ça s'abîme et pour garder toute la fraîcheur du fruit. Une fois que ton vin est né, c'est quand tous tes sucres sont transformés. Si tu n'as pas de volatile, si tu as du fruit, si c'est net, si chez nous en Chinon, notre gros problème c'est le brett. Si tu n'es pas tombé en brett, bah, je dirais que derrière, tu n'as pas forcément besoin de mettre beaucoup de soufre. Donc on en met pour garder le vin, mais ça te demande un peu plus de travail là-dessus, juste sur la vendange mécanique, ensemencement. Donc travailler avec tes levures indigènes avec des pieds de cuve qui soient solides et véloces. Et puis la surveillance de tes dynamiques de fermentation.
Pourquoi les mérettes, c'est un problème très particulier à Chinon ? Enfin, il y en a partout, des mérettes, évidemment, mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est un problème spécifique ici dans l'appellation ?
Bah, c'est un problème qu'on connaît un peu sur les quatre appellations de Rouge de Loire. Là. C'est un problème parce que c'est en fin de fermentation alcoolique, quand les dynamiques sont un peu lentes et où on n'a pas assez de nutriments dans nos mous. Parce que la levure se nourrit d'azote, ou tu as une Brettanomyces qui s'installe et qui vient dégrader les quelques derniers grammes de sucre et qui te donne un goût de cuir de cheval, quoi, de cul de cheval, un petit peu de sueur. C'est pas ce qu'on recherche. Pour nous, c'est une maladie. Hein. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir le fruit, c'est d'avoir le plaisir, la rondeur. Et Brettanomyces, c'est une levure qui vient travailler à la fin et qui n'est pas... que l'on recherche pas.
Je vais poser ma question autrement parce que c'était pas tellement sur le goût que je voulais aller, mais pourquoi est-ce que ici dans cette zone Brettanomyces se développe si bien et quelles sont les conditions qui font que vous avez des problèmes de Brett?
La silice. On a des sols qui sont chauds. On a des sols qui nous donnent des vins avec des pH assez hauts. Donc on a des pH, nous, assez régulièrement ici, on a des pH entre 3,7 et 3,8 au final. Donc tu te retrouves avec des vins qui n'ont pas beaucoup d'acidité, donc qui n'ont pas une stabilité très importante. Et finalement, comme on recherche des maturités maintenant, on se retrouve avec des milieux favorables au développement de cette Brettanomyces.
Je vais essayer d'aller sur un terrain, je ne sais pas si je vais y arriver, mais... dans la région, à Chinon, mais pas que, à Saumur aussi, il me semble qu'une des identités du Cabernet Franc de la Loire,
oui,
c'est quand même d'avoir une forme de fraîcheur.
Oui.
Pourtant, tu viens de décrire le fait que l'acidité est basse.
Oui.
Comment est-ce que t'expliques le fait qu'on ait à la fois une acidité relativement faible et en même temps une sensation de fraîcheur quand on boit les vins qui est importante et pas de lourdeur dans les vins?
Eh bien, tu y es là. T'as vu, on a des nuits fraîches. Septembre, chez nous, c'est des nuits fraîches et des journées relativement chaudes. Et cette fraîcheur, c'est ça. On parle de fraîcheur du fruit, comme tu l'as bien dit, on ne parle pas d'une fraîcheur acide. On parle de cette fraîcheur de fruit où tu vas avoir de dynamisme. Et c'est ce dont on parle en ce moment, c'est cette fraîcheur de fruit de Loire où, comme tu n'as pas des nuits chaudes, comme tu as des nuits fraîches au mois de septembre et des journées qui sont relativement chaudes, comme pour faire des grands blancs, les grands rouges, c'est pareil. C'est cette alternance jour-nuit chaleur-fraîcheur qui fait qu'on garde un fruit net, généreux et pulpeux dans nos raisins et ça se ressent dans le vin. C'est la fraîcheur de la Loire. Ce n'est pas forcément son acidité, mais c'est sa fraîcheur climatique au mois de septembre. Dans 50 ans, si jamais il fait chaud autant qu'on nous le prédit, ça pourra poser un problème. Mais aujourd'hui, on est toujours dans cette fraîcheur-là.
Ok. On continue ?
T'as un tracteur qui va
passer. Ouais.
C'était la partie seigneuriale du château. Donc là, t'avais une chapelle qui a été tombée à la Révolution. Et là, t'as toute la partie du vieux château du pressoir, donc avec les meneaux du 16e qui sont toujours là. Tu avais la cour à l'intérieur avec une petite balade et puis ce pigeonnier carré caractéristique de chez nous, assez imposant. Et voilà, tous les murs ont été détruits, mais le bâtiment et l'âme du lieu est encore là grâce justement à ces parcelles qui n'ont pas bougé.
Comment est-ce que ça a échappé au remembrement ici?
Grâce aux vignes. Parce que autant des parcelles de champs, t'en fais ce que tu veux, autant des parcelles de vignes, tu les échanges pas. Parce que chaque vigneron est attaché à sa vigne, les âges sont compliqués, tu peux pas échanger des parcelles de vignes. Donc ce qu'a changé tout ça, c'est les vignes et puis les grands-mères. Nous ici, il y a eu 30 ou 40 ans où il n'y a pas vraiment eu d'hommes. Ils sont soit parvenus de la guerre, soit morts très tôt. Et c'est les maîtresses femmes, les grands-mères qui ont tenu la place pendant longtemps, et Thérèse, notre grand-mère paternelle, n'a jamais voulu que les murs soient écroulés, changés, bougés. Donc elles ont absolument tenu à ce que ce soit, il y ait cette identité parcellaire qui reste la même. Voilà. Donc c'est ces deux phénomènes-là.
Le remembrement, là, est-ce que tu peux... Parce que je ne suis pas sûr que nos auditeurs et nos auditrices sachent exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et est-ce qu'il a été important dans la région?
Alors, au remembrement, c'est les grandes réformes agraires, 70, Pisani, qui nous dit écoutez, faut arrêter de faire des petites parcelles parce que c'est moins productif et il faut faire des grandes parcelles. Donc, c'est là où, notamment en Bretagne, tu prenais un village et puis tu testais. Par exemple, nous, on avait deux parcelles qui se joignaient. Et on n'en faisait plus qu'une, et puis on échangeait nos terrains comme ça, et ça permettait de casser les haies, de couper les ensembles, et puis d'avoir des surfaces de travail avec les tracteurs beaucoup plus importantes. Donc de gagner en rentabilité et en productivité. Et ça, c'est les années 70-80. Nous, dans notre vallée, c'est venu beaucoup plus tard, parce qu'on a une grande histoire de polyculture. Ça veut dire que... Jusque dans les années 80, il y avait des vaches, il y avait des céréales. Et chez nous, les vignes, l'écartement des vignes a été aussi beaucoup décidé en fonction de la largeur des tracteurs. Donc on a des tracteurs assez larges. Donc les vignes, on a des tracteurs assez larges pour faire de la polyculture. C'est-à-dire que nos tracteurs faisaient de la vigne, des animaux et des céréales en même temps. Et la vallée restait viticole et en polyculture pendant très longtemps. Et ce qui fait que c'est dans nos héritages, le premier remembrement et le seul qui a été fait sur la commune de Panzou chez nous, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1995, tu vois, très tard. Puis il n'est pas question, là, il n'est vraiment pas question d'en refaire.
La polyculture, c'est un gros sujet au domaine Grosbois. Donc il y a eu d'abord tes parents. Sur 50 hectares, ils avaient 8 ou 10 hectares de vignes.
C'est ça.
Et le reste en céréales qui étaient faites par des fermiers de la région.
Tout à fait.
Vous avez changé les choses avec ton frère. Il y a un peu plus de 20 hectares de vignes aujourd'hui, donc vous avez quand même considérablement augmenté la surface.
Oui.
Et il y a du maraîchage et des prés pour des animaux, de l'élevage, des c'est vaches ça. et des cochons. Ouais. Alors, tu l'as dit, la polyculture, ça fait partie un petit peu de l'histoire de la région. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a amené ou quel chemin t'as pris pour te dire « Ok, la polyculture, c'est là mais il faut qu'on accentue les choses, il faut qu'on en fasse plus. » Et est-ce que c'est un chemin qui est lié à la biodynamie ? Puisque la biodynamie, au départ, quand même, quand on lit ou quand on écoute Steiner, il y avait cette idée d'unité autonome, la ferme, avec des animaux et de la polyculture.
C'est tout à fait ça. Tu as bien résumé l'affaire. En 2007, je me suis inscrit chez Demeter, j'ai commencé à lire un peu, à me renseigner, puis au bout de 2 ans, j'ai arrêté Demeter, et puis je me suis dit, écoute, je vais reprendre les terres qui sont exploitées par les fermiers autour, et puis fais-en quelque chose et réintègre-les dans l'exploitation, parce que le fondement de la biodynamie, c'est effectivement l'ensemble, et tant que cet ensemble n'est pas respecté, on n'y arrive pas, quoi. Et donc il faut respecter cette unité, cette interaction du vivant, cette interaction entre le sol, nous, et puis tout son environnement. Donc assez rapidement, tu t'aperçois que quand tu veux créer un équilibre sur tes vignes, mais que tu ne prends pas soin du champ qui est juste en dessous, ou des haies, et que ça a un non-sens, quoi. Donc il faut reprendre à bras le corps. On est des paysans, on est des gens du pays, hein. Avant d'être des viticulteurs ou des vignerons, on est des paysans. Donc les gens du pays, ça s'occupe du paysage. Et on est là pour ça. Dans ta question de tout à l'heure, pourquoi tu es resté ici et pourquoi le Cabernet Franc ? Je suis resté pour le Cabernet Franc, on est d'accord, mais je suis resté pour le lieu. Je suis resté parce que quand je disais qu'on a les pieds dans nos terres, on a aussi les pieds dans les terres de vignes, on a les pieds dans les terres du bas. Quel bonheur, plutôt que de voir des peupliers en bas tous les jours ou tous les 2 jours, d'aller voir les vaches et puis d'être apaisé avec de remettre du vivant dans le paysage. On est responsable de ça, c'est notre responsabilité. On a la chance d'avoir des endroits magnifiques. Il faut au-delà de les rendre magnifiques visuellement, les rendre magnifiques agronomiquement et écologiquement, si on peut encore le faire. Et il faut qu'on, tu vois, on replante des arbres un peu partout. Autour des vignes, dans les vignes, pour justement recréer des milieux intéressants pour les oiseaux, pour la faune, pour la flore. Et ça, il faut absolument qu'on remette ça en route. On va pas être spectateur du déclin général en se disant, bah, de toute façon, on va visiblement dans le mur. Mais faut essayer d'y aller avec panache, quoi. Tu vois, essayons d'y aller en sauvant ce qui peut l'être, et on fait sûrement des erreurs. Peut-être qu'on fait fausse route, mais aujourd'hui, si faire fausse route, c'est arrêter d'utiliser les machines au maximum, c'est de laisser les arbres repousser et puis les oiseaux revenir avec des faunes et des flores qui sont un peu plus riches qu'avant. Je veux bien m'engager dans cette fausse route-là. Au moins, il restera quelque chose plutôt que rien du tout. Vaut mieux qu'on laisse quelque chose à nos enfants plutôt que des choses où il n'y a rien qui pousse, quoi.
Quand même, être maraîcher ou éleveur, ça ne s'improvise pas. Comment est-ce que vous êtes... monté en compétence, même si je n'aime pas trop cette expression-là, mais comment est-ce que vous avez appris, comment est-ce que vous vous êtes formé pour devenir éleveur et maraîcher ?
On a appris en faisant des erreurs et on en fait encore beaucoup. On ne monte pas en compétence tout seul, c'est pas vrai, on ne peut pas. Nous, avec Sylvain, notre compétence, c'est le vin et la vigne, et on connaît nos limites. Même on s'entoure de gens dans la vigne, on s'entoure de gens dans le vin pour nous conseiller, pour nous aider, pour nous épauler. Le maraîchage, c'est un vrai métier, c'est un métier passionnant parce que tu vois tout pousser tout le temps, donc c'est ultra vivant. Mais ce n'est pas nous qui le faisons. Il y a Mathieu qu'on va aller voir tout à l'heure et qui s'en occupe. Et nous, les animaux, c'est la même chose. On a choisi nos races, on a choisi notre façon de les élever, mais après, on ne peut pas s'occuper de tout. On se considère plutôt comme des chefs d'orchestre aujourd'hui. On a une quinzaine de personnes qui travaillent autour de nous. On a la vision à long terme, à 15-20 ans, de ce qu'on veut faire de cet ensemble-là. Et puis on donne le tempo des productions qui vont arriver. Alors par exemple, cet après-midi, tout à l'heure, quand tu vas repartir en train, on a un rendez-vous avec Mathieu pour connaître le programme de plantation sur les 5-6 prochains mois au maraîchage. Donc on va le faire ensemble, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas moi qui vais réaliser les plantations, mais on va décider ensemble de ce qu'on va faire, de ce qu'on veut faire en conserve, de ce qu'on veut faire en panier de légumes, de ce qu'on veut faire en produits préparés. Et à ce moment-là, on va planter ensemble. Mais après, lui, il va être autonome sur sa partie.
Est-ce que dans le fait de lancer ses activités, il y a une dimension économique et gestion du risque naturel?
Alors, que ce soit Sylvain ou moi, on n'est pas très bon. On est dans la gestion du risque et dans la gestion du risque, de l'économie du risque, on n'est pas bon. Ou économique du risque, on n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, on apprend. Donc, on s'est lancé, on se lance avec passion. Quand tu te lances avec passion et pas trop avec pragmatisme, c'est qu'en général, tu comptes pas très très bien. Si on avait été totalement pragmatique et pas un peu rêveur, on ne se serait pas lancé là-dedans. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'activité maraîchage, elle est née il y a 3 ans. Lentement la première année, de façon plus importante l'année précédente et cette année. Et on s'aperçoit que bon, bah là, on est à un équilibre économique qui ne fonctionne pas du tout. Donc on a perdu de l'argent. Mais on ne peut pas gagner de l'argent partout. Ça, c'est aussi ça, une notion de la polyculture. C'est que nos parents et nos grands-parents, ou ceux d'avant, avaient de la polyculture parce que tu ne peux pas gagner sur toutes les cultures. Aujourd'hui, tu veux gagner partout. Tu ne peux pas gagner partout, c'est pas possible. Enfin, c'est pas tenable. Donc quand tu étais en polyculture il y a 70 ans, tu avais forcément une culture qui perdait. Mais tu te rattrapais sur une autre. Et puis les années de disette, tu partais pas en vacances. Et puis tu n'achetais pas un grand écran ou la dernière voiture. Bah ouais, mais c'est aussi un petit peu ça. Le problème du moment, c'est qu'on veut tout de suite, tout le temps. Le maraîchage, on s'aperçoit que... il va falloir qu'on perde de l'argent encore pendant 2-3 ans, on va réduire nos productions, on va mieux s'équilibrer, on va redévelopper une filière qui n'existe pas en local. Donc les gens vont reprendre des légumes, on fait des produits transformés, on va faire un peu de petite restauration l'année prochaine au domaine, ce qui va nous permettre de passer nos légumes aussi. Et on a tout à repenser. Mais de façon économique, la partie animale et pépinière maraîchage, aujourd'hui, ça perd de l'argent. La vigne nous en rapporte un peu. Ce qui fait que ça permet de s'équilibrer. On n'est pas malheureux, on vit bien et on vit heureux. Déjà, vivre heureux, c'est pas mal. Et par contre, moi, je gage que quid de ce qui va se passer de la viticulture dans 20, 30 ou 40 ans. Et si dans nos campagnes, on laisse à nos enfants une activité maraîchère, une activité, c'est peut-être pas eux qui le reprendront, mais ça fera vivre les campagnes. Une activité maraîchère établie avec une histoire, ce qui fait que tu as aussi une dimension sociétale. C'est-à-dire que dans le village, il y a des gens qui viennent, qui habitent maintenant dans le village, qui viennent, ça emploie 2 personnes à plein temps, donc ça fait vivre de familles, qui viennent pour le maraîchage. Et cette dimension sociétale, pour les 10 ou 15, 20 prochaines années, elle est ultra importante parce que elle structure la diversité du village, elle pérennise le terroir et elle pérennise l'endroit dans son autonomie, dans sa culture, dans son travail. Ça brasse un peu, ça brasse des cultures et ça fait venir d'autres personnes. Donc, économiquement, aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Humainement, c'est une superbe aventure. Et je pense qu'au final, et j'espère, et les 2 prochaines années nous le montreront, mais que dans 2 ans, on sera à l'équilibre et que ça sera un pôle dans l'entreprise qui fera complètement sens et qui gagnera un peu d'argent. Et encore une fois, l'idée, c'est de pas forcément gagner partout.
Je voudrais qu'on se concentre un peu sur la saison en cours. On est à 2 semaines des vendanges.
Ouais.
Déjà, est-ce que tes équipes de vendanges, elles sont faites là?
Oui, elles sont faites. Ouais, on a 60 vendangeurs qui sont inscrits. Et puis, il nous en manque une vingtaine, une trentaine, mais on sait que ça sera au dernier moment, ça.
Et comment ça s'annonce, là, cette vendange? Est-ce que tu es content du raisin et de l'état du raisin?
Alors, sur la vallée de la Vienne, de l'Indre, à Zellerideau, on a une superbe récolte, on est très content. Ici, à Chinon, on a eu beaucoup de problèmes avec le mildiou au printemps. Donc, on a une belle sortie de raisin, mais on a quand même du mildiou de façon importante. Le bon adage dit qu'on verra quand ça sera dans les cuves, et effectivement, on verra quand ça sera dans les cuves. Pour l'instant, ça s'annonce bien, ça s'annonce pas grand, parce qu'on a quand même un millésime où on a une climatologie plutôt irrégulière, mais on pense que ça sera plutôt intéressant. Ce sera pas un grand millésime, parce qu'un grand millésime, c'est quand tout est parfait depuis le début, mais là, ça se déroule plutôt bien, et on va rentrer dans une jolie année classique, quoi. Voilà, si on travaille bien derrière.
Eh bien, cette visite express à Chinon, au domaine Grosbois, fait du bien. Voici un domaine qui affirme sa différence, avec des vins à nul autre pareil, et une conscience écologique laissant présager un avenir radieux. Merci Nicolas pour cette formidable journée, et merci aux équipes du domaine pour le chaleureux accueil. Je suis Romain Becker, et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Psica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Lapé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original, et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !